BFM Business présente les experts de l'IMO, Marie-Cœur de Roy.
Et il est midi une sur BFM Business, l'heure des experts de l'IMO. Mais avant cela, un rappel de l'actualité du jour. Et face à la canicule qui persiste, EDF annonce la mise à l'arrêt d'un deuxième réacteur. Cette fois, c'est la centrale de Nogent-sur-Seine qui est touchée après celle de Golfech depuis lundi dans le Tarn-et-Garonne. En cause, les températures trop élevées des fleuves qui servent normalement au refroidissement des réacteurs. EDF précise que des baisses de production sont en cours et à prévoir sur d'autres sites. Sur le front géopolitique, notez que l'apaisement au Moyen-Orient a enfin ramené les cours du pétrole à leur niveau d'avant la guerre contre l'Iran. Le baril de Brent aussi autour des 72 dollars ce midi et le WTI sous les 70 dollars. Une accalmie qui reste fragile, d'où la mise en garde du chef de la diplomatie américaine en tournée dans le Golfe. Marco Rubio assure que Washington refusera la mise en place de péages dans le détroit d'Ormuz, considérant que cela pourrait engendrer un chaos total en se propageant à d'autres passages maritimes. Allez, c'est l'heure des experts de l'IMO.
Votre programme avec Bien Ici.
On est bien ici.
Trouvez votre futur logement par vie de quartier et temps de trajet sur bienici.com. BFM Business présente les experts de l'IMO, Marie-Cœur de Roy.
Et les experts de l'IMO, c'est tous les jours à l'heure de votre déjeuner sur BFM Business. Une demi-heure pour parler de notre immobilier, de nos logements. Et comme tous les jours, ça démarre par cette séquence qui vous concerne. Amis professionnels de ce secteur de l'immobilier, le pro de l'IMO, des témoignages terrain de vos métiers. Alors aujourd'hui, on va pas parler logement. Enfin, on pourrait parler de ce qui pourrait devenir des logements, mais pas vraiment. On va parler de la vacance des bureaux en Île-de-France. Je dis vacances, mais on va voir que c'est plutôt de l'obsolescence. On verra ça dans quelques instants. Ensuite, retour en plateau pour le débat du jour avec un sacré match aujourd'hui. Logement social contre logement intermédiaire. Match ou complémentarité, on verra ça dans quelques instants. Mais d'abord, c'est l'heure du pro de l'IMO.
Les experts de l'IMO, le pro de l'IMO.
Et on est en ligne avec Xavier Saavedra. J'espère que j'ai bien prononcé votre nom, Xavier, consultant immobilier indépendant.
Ouais, c'est très bien. Bonjour, merci de m'avoir accueilli.
Ah ben oui, voilà, je comprends mieux. Vous avez un superbe accent et ça tombe très bien avec le temps d'aujourd'hui. Alors, on allait parler justement
de l'accent du sud.
Ouais, mais ça fait du bien en fait, c'est joli. Allait parler avec vous de la vacance des bureaux en Île-de-France. Alors, on la connaît, elle est considérable, mais vous nous dites, en fait, à une époque, on pouvait parler de vacances. Aujourd'hui, vous nous dites, c'est quasiment l'existence même de ces locaux qui doit être remise en cause.
Oui, en effet, avec le nombre de mètres carrés qu'on a vacants, c'est notamment depuis les Covid et l'implémentation du télétravail, les risques majeurs aujourd'hui n'est pas une vacance temporelle, mais le fait que cette vacance devienne définitive et que l'immeuble ne soit plus capable de répondre aux attentes du marché et des utilisateurs, et donc il devient obsolète.
Mais ça veut dire qu'on fait quoi s'ils deviennent obsolètes, ces locaux? Parce que là, on parle quand même de 6,2 millions de mètres carrés de bureaux vides, en fait, en Île-de-France. On en fait quoi? On démolit tout? Qu'est-ce qu'on fait?
En fait, il faut pas paniquer parce que beaucoup de immeubles peuvent avoir des solutions. Et c'est justement le travail que je mène, c'est d'analyser cas par cas si un immeuble peut être sauvé ou comment le faire, plus précisément.
Mais justement, vous faites quoi quand vous le sauvez, l'immeuble? Parce que c'est tout le sujet. C'est pour ça que je disais qu'on n'allait pas parler de logement, mais enfin quand même. Ouais. Est-ce que c'est le sujet de la transformation de ces bureaux en logement, par exemple?
Ça peut l'être. Après, il n'y a pas une formule magique. C'est vraiment une analyse des cas par cas. Il faut analyser l'immeuble en soi, quelles sont les caractéristiques intrinsèques, les caractéristiques techniques. Il faut bien évidemment analyser les marchés. Est-ce que la demande a évolué? Est-ce que les attentes des utilisateurs ont évolué? Il y a aussi toute l'évolution réglementaire qu'on vit depuis quelques années avec des demandes de plus en plus fortes en termes des performances énergétiques. Qu'est-ce qu'on peut également faire d'un point urbanistique et aussi, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire? Et une fois qu'on a les réponses à toutes ces questions, il faut les prendre dans un ensemble, modéliser des différents scénarios et voir quel est le scénario qui est le plus pertinent pour mon client en particulier, parce que chaque client aussi est différent et certains peuvent avoir des limitations ou favoriser certaines stratégies. Et donc, l'objectif est de trouver la bonne réponse qui convienne à mon client. Et effectivement, cela peut être rénover un immeuble, cela peut être les transformer pour accueillir des nouveaux usages, ou dans certains cas, les cas les plus extrêmes parfois, la meilleure solution c'est de démolir et reconstruire.
Juste quand même, votre boulot c'est de justement expliquer ça à des propriétaires qui parfois ne l'ont toujours pas compris, c'est-à-dire qu'ils attendent en se disant bon bah pour l'instant c'est vacant mais il y aura forcément quelqu'un que ça va intéresser, et vous votre job c'est de lui dire bah non en fait il n'y aura personne à ce stade compte tenu de ce que c'est aujourd'hui qui pourrait être intéressé en l'état par ce bien-là, c'est ça votre boulot.
Oui, exactement. Et après, les mettre en place. Mais il est important de souligner que l'attentisme a des conséquences aussi.
Sur la valeur.
Parce que sur la valeur, on a des charges à payer tant que notre immeuble il reste vacant. L'immeuble il continue à se détériorer dans le temps s'il n'est pas utilisé. Et donc, attendre n'est pas une décision qui est neutre.
Ouais, mais on a le sentiment. On a le sentiment que sur cet immobilier tertiaire, c'est un peu plus compliqué presque encore que sur les logements et que les particuliers entre eux qui attendent et qui finissent par brader. Mais là, sur l'immobilier tertiaire, parfois, on a le sentiment de se dire, oh là là, tant que j'ai pas vendu, j'ai pas perdu, donc j'attends. Mais vous, ce que vous dites, c'est attention, les gars, vous allez perdre encore plus.
C'est ça. En effet, c'est perdre peu aujourd'hui pour perdre beaucoup plus demain. Donc, je pense que la bonne décision est de se poser la question, de faire, il faudra faire des décisions parfois difficiles, mais qui vont assurer ou qui vont optimiser la durabilité de votre immeuble et la valeur sur le long terme.
Et donc pour ça, il faut vous appeler, c'est ça? Non, je plaisante pas d'ailleurs.
Par exemple, oui, je serais ravi de partager mon expertise sur le sujet.
Avis aux propriétaires de bureaux vides en Île-de-France, ils sont encore nombreux. Appelez Xavier Saavedra. J'espère qu'encore une fois, je l'ai bien prononcé, consultant immobilier indépendant qui était avec nous ce midi sur BFM Business. Allez, c'est l'heure du débat.
Les experts de l'IMO, le débat.
Et à mes côtés, Eric Balsi, patron d'Inly. Bonjour Eric.
Bonjour Marie.
Et à mes côtés également, Cédric Lauré, directeur général délégué de Polylogie.
Bonjour. Bonjour Marie.
Alors, je le disais, aujourd'hui on va faire un match. On va voir qu'en fait c'est un peu plus subtil que ça, mais faire ce match entre le logement intermédiaire et le logement social. Alors déjà, on va redéfinir ensemble les différences entre ce logement intermédiaire et ce logement social. Eric, on parle du logement intermédiaire. Alors, c'est quoi le profil d'un locataire du logement intermédiaire?
C'est la bonne question. C'est vrai que souvent on commence par le logement et en fait, il faut bien commencer par le profil du client, du locataire.
On parle de quoi qu'il arrive, que ce soit le logement intermédiaire ou le logement social, on parle de logements avec des loyers modérés. Donc l'idée, c'est de se dire à qui s'adressent ces logements.
Effectivement, dans les deux cas, on est sur des prix abordables ou prix maîtrisés, comme on le dit chez Inly. Chez Inly, le client, on va dire moyen, enfin le portrait robot, c'est un jeune actif, un salarié d'une entreprise privée. En 2025, le groupe Inly a logé 9000 ménages. Et dans ces 9000 ménages, 94% étaient des salariés du secteur privé. Voilà, plutôt des salariés, un âge moyen de 34 ans, donc plutôt des jeunes.
Jeunes, ouais.
Voilà. Donc des futurs candidats à l'accession, et on en parlera tout à l'heure. En fait, le logement intermédiaire est un produit d'accession différé, hein, c'est ce qui va aussi différencier du logement social notamment, et qui ont des revenus de 50, je parle du ménage hein, évidemment, 50 55 euros. Donc on est vraiment sur des populations évidemment c'est revenus annuels. On est sur des populations qui sont rarement éligibles au logement social, mais qui ne peuvent pas se loger dans le privé. On le voit, il y a plus d'offres privées. Beaucoup de dispositifs ont disparu. Les institutionnels, appelés aussi les zinzins, n'investissent plus non plus. Donc, le logement intermédiaire est également une réponse à une offre qui n'est plus sociale, mais qui est plutôt intermédiaire, voire privée.
Je dirai rien, je me retourne vers Cédric. Non, parce que vous savez quelle est ma position sur... je vais refaire à un moment les chiffres, mais bon, je me retourne vers Cédric. Sur l'éligibilité justement à ces logements intermédiaires et ces logements sociaux, parce qu'en plus, il y a plusieurs catégories de logements sociaux, on en a trois. Hein. Oui. Pour la faire courte, vous avez du très social, et puis social supérieur, en gros. Hein. Avec des plafonds de ressources qui ne sont pas si éloignés quand même du logement intermédiaire. Les populations sont véritablement différentes?
Il y a quand même un échelonnement sur les plafonds de ressources et il y a un écart entre ceux du produit le moins social du logement social qui est le PLS et puis le logement intermédiaire. Il y a quand même cette différence sur les ressources. La différence, elle est beaucoup plus marquée en fait quand on regarde l'occupation en tant que telle et les gens et le profil des ménages qui rentrent dans le logement social et dans le logement intermédiaire.
Ça j'entends. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi une forme de censure des ménages en se disant moi je ne vais pas être éligible au logement social donc je regarde le logement intermédiaire? Parce qu'en réalité, je veux juste prendre un exemple. parce que j'ai regardé un petit peu. Alors, si on regarde la zone Abyss Paris, hein, en gros, j'ai pris un couple avec deux enfants. Ça match aussi pour un parent solo avec deux enfants. C'est les mêmes plafonds de ressources. Il faut pas gagner plus que 102 812 euros par an pour du logement intermédiaire. Si je regarde le moins social des logements sociaux, on monte déjà quand même à 81 858 euros. Est-ce que véritablement on loge des gens qui sont vraiment en difficulté dans le LLI? Je pose la question dans le logement intermédiaire. Je vous pose la question.
Je crois que la question c'est plutôt le PLS. Quand on regarde les 3 millions.
Le PLS étant la catégorie la moins sociale.
En fait, quand on regarde les chiffres, il y a 3 millions de demandeurs de logement social en France et 90% demandent le très modeste et le modeste, le PLS représente à peine 10% et dans certains territoires, moi qui travaille dans les Hauts-de-France, c'était à peine 5%. Donc en réalité, quand on parle de demande de logement social, les gens réclament plutôt du PLAI et plus PLUS, social. Donc très social, hein, les populations fragiles et puis les populations modestes. Et c'est vrai qu'on peut s'interroger entre le PLS et le logement intermédiaire, puisque nous, quand on regarde nos statistiques chaque année, on a à peu près 15% qui sortent du logement social PLS pour venir dans le logement intermédiaire. Donc, on voit bien qu'effectivement, là-dessus, bon, la frontière où les écarts sont pas extraordinaires. Par contre, nous, en tant qu'INLI, s'il n'y a pas un rapport de 1,5, c'est-à-dire qu'il ne faut pas, entre le loyer du marché libre et le PLS, on n'ira pas faire de l'intermédiaire. L'intermédiaire, version INLI, on fait de la vraie, le vrai intermédiaire, c'est quand même dans les zones très, très, très tendues. Sinon, vous avez raison, ça ne sert à rien. Il vaut mieux faire du PLS et répondre à ces besoins de ces familles qui ont besoin de se loger.
Cédric, vous faites de tout, vous?
Alors, chez Polylogie, on fait tout, du très social.
Je l'ai bien vendu, hein,
à l'intermédiaire, jusqu'à l'accession, en effet. C'est vrai qu'on a des ménages qui rentrent dans le logement social qui sont de plus en plus pauvres, en réalité. Et donc, il y a une concurrence dans les publics. La concurrence, elle est plutôt là que dans les produits,
c'est
en
ça,
réalité.
Ouais.
Et donc, vous pouvez avoir des revenus relativement élevés et prétendre au logement social.
Être éligible à un logement social sans pour autant être
avoir
prioritaire.
Avoir la moindre chance d'y rentrer. Ouais, en particulier quand vous vivez dans les territoires les plus tendus. Et c'est là où le logement intermédiaire est particulièrement intéressant, parce que vous allez avoir un loyer effectivement un peu plus élevé que si vous étiez dans du PLS, mais vos chances de succès sont aussi beaucoup plus élevées que si vous attendez un logement
social.
Il est
là le sujet. Parce qu'effectivement, quand on regarde sur le papier, effectivement, enfin voilà, moi je parle toujours de mon cas personnel, mais faisons-le. Moi je suis éligible à 2 catégories de logement social sur 3. Et évidemment donc au LLI. Donc voilà. Et je suis dans le marché libre. Libre comme l'air. Et pourquoi? Parce qu'il n'y a pas suffisamment d'offres. Donc est-ce que c'est pas ça le sujet entre le logement social et le logement intermédiaire? C'est cette concurrence dans les publics et donc ce besoin de produire davantage en fait.
Oui, notre concurrent, nous, c'est pas le logement social. Nous, notre concurrent, c'est le logement libre. En fait, l'objectif, effectivement, c'est de produire du logement intermédiaire pour essayer, en tout cas, c'est un des objectifs, à baisser, à ramener les prix. C'est-à-dire que plus vous avez une offre intermédiaire abondante, et plus, finalement, le libre va venir s'aligner sur ce tarif-là. Donc, c'est là où plus on a de logements dits à prix maîtrisé, et plus on a de chances, finalement, d'avoir un marché du libre qui va venir, on va dire, se corriger, puisque à Paris, en fait, on investit peu. Il n'y a pas suffisamment de logements intermédiaires, les familles partent, bah forcément ce qui reste est très 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 cher. Donc voilà, le sujet, c'est que dans beaucoup de communes, nous on regarde du côté du Grand Ouest, où en fait le logement libre et le logement intermédiaire, c'est quasiment, on va dire, très proche, enfin quasiment identique. Il vaut mieux dans ce cas-là faire du libre et avoir le soutien, on va dire, au niveau fiscalité, pour avoir finalement, parce que le logement coûte cher aussi dans ces territoires, pour avoir une offre qui soit plutôt libre, abordable, avec un dispositif qui est soutenu et en plus géré par des professionnels comme INLI.
Oui, alors justement, ça répond à la question, parce que vous savez ou vous ne le savez pas, mais vous le saurez, Alban, notre réalisateur en régie, me pose souvent des questions sur les débats qu'on mène en plateau. Il est hyper impliqué, il me dit, mais c'est qui les propriétaires bailleurs de ces logements intermédiaires? Alban, les voici. Mais il y en a d'autres, ça peut être aussi des particuliers. Est-ce que ce ne sont pas eux aussi vos concurrents? Parce qu'aujourd'hui, alors le LLI peut être accessible à des particuliers.
Il faut un véhicule particulier quand même pour investir dans du LLI.
Il faut créer une société.
On ne peut pas tout de suite être propriétaire de LLI en tant que tel. On a des dispositifs fiscaux qui ont existé ou qui essayent d'exister.
On embrasse le ministre du Logement.
Qui ont vocation à être en concurrence potentielle avec le LLI, mais on est quand même sur des faibles volumes. C'est des investisseurs particuliers, donc ils vont acheter acheter un, deux logements grand maximum. Notre force de frappe à Eric et à Polylogie, à Enni et Polylogie et d'autres acteurs comme nous, c'est qu'on a cette capacité à faire du volume.
Et combien, surtout... combien va falloir me donner des chiffres?
Alors, chez Polylogie, on en est, avec les prochaines livraisons qui arrivent, on sera sur 1400 LLI, ce qui est relativement modeste quand on regarde l'essentiel du parc qu'on a, en tout cas chez la société mère du groupe qui est Logirep, on est sur 48 000 logements. Vous voyez, ça reste une proportion limitée, mais qui est très utile. On y reviendra, mais qui est très utile aussi pour équilibrer les opérations dans lesquelles on a aussi...
Oui, on va en parler, l'équilibre financier de l'opération.
Mais notre grosse force, c'est qu'on a cette capacité aussi à faire de la gestion, d'exploiter ce patrimoine, de l'arbitrer le moment venu quand il faut le vendre. Est-ce qu'on ne peut pas retrouver si on s'adresse à une multitude d'investisseurs particuliers? Donc c'est aussi un atout pour les pouvoirs publics d'avoir des acteurs comme nous sur lesquels s'appuyer. D'ailleurs, rappelons-nous qu'on a été appelé à contribution il y a quelques temps pour aider
les promoteurs immobiliers.
Et quand on aidait les promoteurs, c'était avec du logement social et beaucoup
du logement
intermédiaire.
Vous en êtes à combien chez Enni aujourd'hui?
Sur du logement intermédiaire. Ouais. Nous, on a produit 3500 logements, on a un objectif de 4000 à l'année. Ça ne suffit pas aujourd'hui, donc on a besoin effectivement que des bailleurs viennent soutenir. Alors c'est pas tout à fait la même logique, hein. On est très spécialisé et on va dans les zones très tendues, on ne voit pas partout. Et on a des dispositifs comme le Jean Brun qui parle de loyer intermédiaire, c'est une première. Ce qu'on ne dit pas non plus, c'est que le Pinel, c'était du loyer intermédiaire.
Aussi,
voilà,
ouais.
C'est les mêmes niveaux et plafonds de ressources, c'est exactement le même produit. Donc quelque part, il y avait aussi
alors,
une volonté.
Alors apparemment, c'était pas exactement les mêmes niveaux de loyer quand même entre le Pinel et...
Si. À la fin, ça s'est aligné en fait. Et c'est pour ça qu'en fait, il y a eu des dispositifs d'élargissement des zones LLI pour venir, apporter une solution à la fin du Pinel. Donc le Pinel, le Jean Brun aujourd'hui, ce sont des loyers intermédiaires.
Alors, et donc les loyers intermédiaires, on rappelle, 10 à 15% plus faibles que ceux du marché globalement.
10, 15, parfois 20%. Par exemple, sur Paris, vous êtes même à 40% quand vous avez des loyers à 30 euros.
Mais quand est-ce que vous construisez là?
Il faut accéder au foncier à Paris.
Il
n'y
a pas de foncier à Paris, c'est compliqué. Il faut transformer
faut
des bureaux en logements.
Faire de la surélévation, on en a déjà parlé. Transformer des bureaux en logements, évidemment.
Alors on regarde, on étudie, on travaille avec la ville de Paris sur le sujet pour transformer des bureaux en logements, sur la surélévation. On essaye de trouver des solutions, mais à Paris, c'est vrai que c'est compliqué. Et puis, c'est une politique qui a peut-être un peu tardé, mais c'est vrai que le social, c'est important. Mais à côté, il faut vraiment produire, et c'est ce que la ville de Paris a décidé. Vous avez un objectif de 4000 logements sociaux, mais aussi 4000 logements intermédiaires. J'ai envie de dire enfin. Mais par contre, voilà. Maintenant, il faut amorcer la machine. Ce n'est pas si simple.
Mais juste du coup, pour me redonner les chiffres chez Enni, là, on est à combien de logements produits
On en a fait 3500. On a un objectif annuel de 4000.
D'accord.
Donc, c'est plutôt bien. Si on peut estimer le besoin aujourd'hui, vu que plus rien ne se fait autour en termes d'investissement des particuliers, certains l'estiment à peu près à 30 000 logements par an, le besoin. Oui, donc on est loin,
on est
avec les 1000, les 4000.
Et je rebondis sur ce que vous disiez, Cédric, sur le fait que, bah oui, effectivement, les grands institutionnels ont été appelés à la rescousse pour pouvoir sauver le soldat promoteur. Et là, je regardais les derniers chiffres des promoteurs immobiliers et on voit que les ventes en bloc, vous êtes plus là?
Peut-être que les bailleurs, peut-être que les bailleurs sociaux sont un peu moins là.
Ouais.
Pour une raison assez simple, c'est qu'il y a eu beaucoup de logements intermédiaires qui ont été achetés ces dernières années. Et que c'est peut-être la différence entre Enni, qui est un acteur spécialisé du logement intermédiaire, et les bailleurs sociaux, comme Polylogie, Logirep, qui réalisent du logement intermédiaire, c'est qu'on a aussi d'autres vocations. Évidemment, on continue à produire du logement social, réhabiliter notre patrimoine. Et à un moment donné, il faut aussi qu'on arbitre nos investissements, où on met nos fonds propres. Et donc, c'est pour ça qu'il y a une petite réduction de la voilure. Peut-être plus un effet d'attrition de l'offre des promoteurs du fait des élections municipales qui a probablement ralenti aussi un peu les opportunités qui se présentaient à nous.
Donc là, ça va repartir ou l'élection présidentielle, elle ne va pas aider là?
On est, à mon avis, encore dans une instabilité, au moins jusqu'à fin 2027. Je le crains.
Chez Enni, 90% de la production de 2025, c'était avec les promoteurs. Donc, en fait, nous, on vient soutenir les promoteurs immobiliers. Là-dessus, nous, on a absolument pas baissé. On est capable de faire plus. Mais effectivement, on voit un ralentissement du côté des bailleurs sociaux qui ne peuvent pas financer avec des loyers faibles sociaux des prix actuels. Donc,
et voilà,
il y a un problème de modèle économique.
Comment il fait la transition, Eric, c'est magique. Parce qu'il y a cet équilibre économique. Vous nous expliquez pourquoi il y a cet équilibre économique qui fait qu'on ne peut pas faire que du logement social, on ne peut pas faire que du logement libre non plus, on ne peut pas faire que du logement intermédiaire. Comment ça se passe au moment où, en fait, on a une page blanche?
En fait, on va se retrouver, quand on produit plusieurs types de logements, et en particulier quand on produit du logement très social, les loyers du très social
sont très faibles.
C'est très bas. C'est 5, 6, 7 euros du mètre carré. Là où sur l'intermédiaire, on va être pas loin du double, en tout cas dans les zones les plus tendues. Donc vous voyez bien, c'est pas la même équation.
Donc vous n'allez pas payer le même prix du coup.
Alors, on va avoir des prix au logement qui seront sensiblement plus élevés sur le logement intermédiaire parce qu'on va avoir des prestations supérieure.
C'est-à-dire que le logement va pas être le même quand je
pas
vais moi être
fait.
Locataire d'un logement PLAI, donc le plus social des logements sociaux.
Effectivement, on a des prestations qui varient un peu, même si aujourd'hui on fait quand même du logement social de très grande qualité. On a quand même des prestations qui sont sensiblement différentes entre le social et l'intermédiaire. C'est pas pour autant qu'on a une multiplication par deux du prix.
Ouais.
En fait, le problème de fond, c'est que la production du logement social reste très chère, avec des loyers très bas.
Faible.
Si on met pas à côté de ça du logement social le moins social, c'est-à-dire le PLS. Et du logement intermédiaire quand on en a l'opportunité.
On équilibre parce que pour vous qui portez les projets aussi derrière, il faut que ce soit rentable.
Et il faut qu'à la fin, on ait des flux de trésorerie qui soient positifs idéalement, de manière à ce qu'on soit toujours dans la même logique, c'est-à-dire qu'on puisse chaque année produire des fonds propres à réinvestir dans notre patrimoine. C'est vraiment une logique vertueuse qu'on a en France avec le système du logement social.
Mais vous payez moins cher quand même, par exemple, quand vous passez par les promoteurs, de toute façon, dans l'absolu, vous payez moins cher que quand c'est vendu aux particuliers.
Oui, il y a une péréquation.
Oui, bien sûr, sur la vente
en bloc. Il y a des avantages dont vous bénéficiez quand même.
Oui. Il y a une péréquation. En fait, de tout temps, le logement social a été subventionné par l'État. Moi, quand j'ai commencé, le niveau des subventions était tel que entre l'État et les collectivités, les communes, finalement, on venait absorber ce surcoût de construction qui permettait d'avoir des loyers plus faibles. L'État est endetté, les communes n'ont plus les moyens. Alors on a encore quelques dispositifs, mais croyez-moi, il y a quasiment, enfin, je pense que vous pouvez le confirmer, quasiment plus de subventions d'État. Donc du coup, l'équilibre se fait de manière plus difficile. Et heureusement qu'il y a encore cette péréquation au niveau de la construction. Effectivement, le prix d'un logement neuf pour du social, l'intermédiaire et du libre, c'est pas la même chose. Et c'est ce qui permet encore de financer du logement social.
Ouais, mais ce qui me fait poser, alors on n'aura évidemment pas le temps parce qu'il nous reste 3 minutes 30, comme d'habitude, le temps passe beaucoup trop vite, mais enfin, ça me pose aussi une question, puisqu'on est parti d'un débat sur le match ou pas match, mais est-ce qu'il n'y a pas un risque de cannibalisation? Est-ce que finalement, si c'est plus rentable de faire de l'intermédiaire, et même du libre, hein, j'ai envie de dire, mais bon, de l'intermédiaire que du logement social, et finalement, est-ce qu'au bout d'un moment, on n'aura pas de moins en moins de logements sociaux et de plus en plus de logements intermédiaires?
Non, parce que le public n'est pas le même, c'était la première question, elle était très bonne.
Je sais bien,
le public est dans les zones très attendu. C'est-à-dire que si on va faire du logement intermédiaire, là où on avait besoin pour du logement social, on se trompe. Et d'ailleurs, l'équilibre économique sera catastrophique. Donc le logement intermédiaire, c'est vraiment fait pour des gens, des jeunes actifs qui n'ont pas les moyens ou qui ne peuvent pas attendre le logement social, mais souvent ils sont éligibles au logement intermédiaire, ils gagnent 3 fois le revenu, ça c'est vérifié systématiquement chez nous, et donc qui en plus vont acheter leur logement au bout de 7-8 ans. Donc on est vraiment sur d'autres candidats, il y a un parcours résidentiel, sur le social, sur du public très modeste, si vous faites du logement intermédiaire, ce n'est pas la réponse. Donc le sujet du logement social est un sujet à part entière, l'intermédiaire en fait est plutôt en concurrence avec le libre pour essayer dans les marchés très tendu, d'apporter une réponse à un marché libre qui n'est plus là, des investisseurs qui ne sont plus là et des prix qui sont trop élevés pour les faire justement ramener un petit peu à des niveaux raisonnables.
Non mais j'entends ce que vous dites. Moi maintenant j'ai quand même vraiment l'impression, et notamment par certaines initiatives de précédents ministres du logement devenus parlementaires par exemple, de se dire bon tiens par exemple dans les quotas de logements sociaux des villes il faudrait introduire du logement intermédiaire pour des villes qui sont carencées.
Là, il y aurait potentiellement un risque de concurrence, mais...
Mais est-ce que tout ça va pas, en fait
Pour moi, il y a une vraie complémentarité entre les produits. Comme l'a dit Eric, si le LLI est en concurrence, c'est plutôt avec de l'accession ou du parc locatif libre. Or, plus personne n'investit dans le parc locatif libre, donc heureusement qu'il y a le LLI pour faire
mais
ça.
Mais ça, c'était la politique d'Emmanuel Macron, de se dire que les institutionnels allaient se substituer aux particuliers, on en a besoin aujourd'hui.
Oui, il faudrait...
Vous ne pouvez pas tout, messieurs. Vous êtes formidables, mais vous ne pouvez pas tout.
On peut pas tout, il nous faut des fonds propres, on n'a pas les moyens.
Donc, c'est clair qu'il y a une vraie complémentarité. Il n'y a pas de risque de
bref. On a compris.
Vous avez
cannibalisation.
Compris l'idée. Cannibalisation, merci. En revanche, on voit bien que ceux qui sont amenés à faire du logement social et du logement intermédiaire, de toute façon, ils ont cette habitude d'arbitrer là où ils vont mettre les moyens, là où ils vont mettre le poids du corps, parce qu'ils ont une vocation à faire du logement social avant tout. Et s'il y a des acteurs spécialistes pour faire du logement intermédiaire, qu'ils en fassent, c'est très bien. Et puis, il faut surtout voir la vertu du logement intermédiaire, qui est aussi complémentaire au fait d'apporter une offre avec des niveaux de loyer un peu plus élevés au logement social, et donc une capacité pour des jeunes ménages qui aujourd'hui n'arrivent plus à rentrer dans le logement social d'avoir une solution quand même, faut jamais perdre ça de vue. Mais c'est aussi un moyen de faire de la diversification de l'habitat dans certains quartiers. On intervient aussi dans la production de logements intermédiaires dans des départements qui sont en pleine transformation. Ouais. Chez Logirep, on a porté l'effort, notamment en Seine-Saint-Denis. On réalise beaucoup de logements intermédiaires en Seine-Saint-Denis dans des quartiers qui sont en transformation. C'est un bon moyen, en fait, d'engager la transformation du quartier avec du parc locatif intermédiaire. Et puis, dans 10-15 ans, on sera capable d'avoir de l'accession comme à d'autres endroits de la métropole.
Et puis, il y avait un mot, je sais qu'il nous reste 10 secondes et Alban va me fâcher, mais il y avait un mot, moi. Il y avait c'est le taux de rotation. Vous parliez du fait que le logement intermédiaire, contrairement au logement social pur, c'est plus un tremplin vers l'accession, ce qui fait qu'on reste moins longtemps aussi. C'est ça aussi le sujet dans le logement intermédiaire.
Sur l'intermédiaire pur, vous êtes à 14% de rotation. Sur le logement social en zone très tendue, on doit être à peine à
5%.
Ouais. Ah,
5-15%. Ouais. Donc effectivement,
même aujourd'hui, même avec la crise actuelle.
Ça a un petit peu baissé, mais l'intermédiaire qui est vraiment au niveau, parce qu'on a aussi un parc ancien qu'on fait comporter comme du logement intermédiaire, mais l'intermédiaire, la rotation reste élevée. Elle est aujourd'hui, notre moyenne est à un peu plus de 11, mais l'intermédiaire pur, il reste toujours à 14-15.
Ouais, tout ça, c'est passionnant, mais évidemment, il a fait partir le jingle, Alban, donc ça veut dire qu'il faut que je me taise. Voilà, donc je vous dis au revoir. Merci Eric Balsi, le patron d'Unly qui était avec nous, et Cédric Loré, le directeur général, oui, délégué de Polylogie. Merci d'avoir été avec nous. Vous reviendrez, évidemment, parce que ces sujets sont passionnants, et moi, je vous retrouve dès demain pour un nouvel épisode des Experts de l'Immo sur BFM Business.
Les experts de l'IMO sur BFM Business.